C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP.
Le 1er décembre dernier, comme tous les ans, depuis 5 ans maintenant, a commencé le mois sans tabac. Et nous allons discuter avec le docteur Brigitte Cornette, médecin tabacologue. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce mois sans tabac, hein, je l'ai dit, c'est la 5e édition. C'est tout le mois de novembre. Alors le principe, expliquez-nous un petit peu le principe de ce mois sans tabac.
Alors, le mois sans tabac est donc une action de santé publique qui existe depuis 2016, hein, c'est donc sa 5e année. Et bien l'objectif, c'est que les fumeurs se mobilisent tout le mois de novembre pour essayer d'arrêter de fumer de façon un peu collective, comme un challenge, comme un défi collectif, avec tous les outils qui leur sont proposés par Santé publique France, essentiellement, et puis toute l'action Moi sans tabac, les réseaux sociaux. Il s'agit d'un défi collectif qui doit vraiment se faire, je dirais presque dans la bonne humeur. Voilà, on essaie de ne pas du tout, en tant que professionnel, être culpabilisant pour les fumeurs. On essaie plutôt de leur faire accéder à des choses positives.
Donc c'est le choix de cette campagne, c'est d'axer plutôt sur les bons côtés d'arrêter de fumer plutôt que les mauvais côtés de continuer d'être fumeur.
Tout à fait, et de ne pas aller dans la culpabilité, dans la maladie, dans les menaces de ce qui va arriver, mais plutôt dans la positivité de se libérer d'une dépendance, d'accéder à une liberté, à une meilleure santé.
Et alors pourquoi cette action en groupe? Est-ce que c'est plus facile quand on est plusieurs d'arrêter de fumer?
Certainement, il y a une émulation, un défi. C'est une campagne peut-être qui s'adresse peut-être plus aux jeunes, à une population un petit peu plus jeune et qui consomme beaucoup de réseaux sociaux. Donc c'est une façon aussi d'aller au plus près de la population fumeuse jeune. Mais c'est bien évident que cette campagne s'adresse à tous les fumeurs, pas de 7 à 77 ans, mais de 15, parce que c'est à peu près l'âge où les jeunes commencent à fumer, de 15 à 77 ou 80 ou 85 ans, oui.
Et alors le principe des réseaux sociaux, c'est que chaque jour, la personne qui participe à ce mois sans tabac va recevoir un petit coup de pouce, une petite motivation, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, il y a différentes façons hein, de participer à ce mois sans tabac. On peut s'inscrire. Alors, on encourage les gens à s'inscrire hein, sur Moi sans tabac, effectivement, sur Tabac Info Service, parce que ça permet de savoir le nombre de personnes qui ont participé, de les accompagner, etc. Mais l'inscription n'est pas obligatoire, bien sûr. Si on s'inscrit, on va recevoir un kit par la poste, hein, un kit avec un calendrier, effectivement, de tout le mois de novembre, avec des conseils au jour le jour et tout un tas de petits gadgets dans cette enveloppe. On peut également utiliser l'application de e-coaching de Tabac Info Service, qui permet aussi d'être suivi, d'avoir un suivi un peu plus personnalisé en ligne. Et puis après, il y a bien sûr tous les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook, Instagram, sur laquelle on peut également être en communication avec les autres et recevoir des conseils.
En règle générale, c'était environ 200 000 personnes qui participaient, en tout cas qui s'inscrivaient à ce mois sans tabac.
Tout à fait. Alors, en moyenne, c'est 200 000 personnes qui, comme vous le dites, qui s'inscrivent. Mais un certain nombre de personnes ne vont pas aller jusqu'à l'inscription, mais vont quand même participer et essayer d'arrêter de fumer durant cette action. Et depuis 2016, hein, il y a quand même eu des résultats très encourageants, puisque 1,9 million personnes ont arrêté de fumer en France. Le lien de cause à effet n'est pas évidemment pas total, mais quand même, hein, l'action Moi sans tabac est importante dans la réussite de ces chiffres.
Quand on a passé un mois, 30 jours sans fumer, c'est plus facile de s'arrêter définitivement ?
Tout à fait. Ça multiplie vos chances d'être encore abstinent à un an par 5.
Et alors, comment est-ce qu'il y a une formule magique pour s'arrêter de fumer?
Alors, il n'y a pas de formule magique, ça se saurait. Je crois que c'est à chacun de puiser un petit peu, surtout donc pendant le mois de novembre, le mois sans tabac, où beaucoup d'outils, beaucoup d'offres sont faites par les intermédiaires dont on vient de parler. Et je dirais que c'est un peu à chacun de chercher ce qui lui convient le mieux, ce qui est le mieux adapté à son histoire de fumeur, à son histoire de vie également. Voilà, bon, les jeunes sont très réseaux sociaux, mais les gens un peu plus âgés, non, ils vont préférer un suivi téléphonique auprès de Tabac Info Service. D'autres ont juste besoin d'un petit coup de pouce et vont se débrouiller tout seuls. Proposer un éventail de solutions pour que chacun finalement s'y retrouve.
Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler quelques-unes de ces solutions, justement?
Alors, d'abord, se faire accompagner, ça augmente également énormément vos chances de réussite de sevrage. Hein. Certes, beaucoup de personnes choisissent de s'arrêter tout seul, mais accompagner et aider et conseiller, c'est quand même beaucoup plus facile et les résultats sont bien meilleurs là aussi. Les méthodes validées, je dirais, hein, scientifiquement, pour aider à arrêter de fumer, quand on est dépendant, bien sûr, de la nicotine, ce sont les substituts nicotiniques, c'est-à-dire l'apport de nicotine d'une autre manière que par la cigarette. Alors, ces substituts nicotiniques existent essentiellement sous forme de patch, hein, qu'on se colle sur la peau, et puis de forme orale, des pastilles, des chewing-gums, des comprimés à sucer. Ces substituts nicotiniques sont remboursés maintenant par l'assurance maladie. Comme un médicament, il suffit de les faire marquer sur une ordonnance par son médecin traitant, et c'est également en tiers payant si vous avez une mutuelle, donc vous n'avez aucune avance de frais. Et depuis cette prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques, là aussi, il y a quand même eu de gros progrès, et beaucoup de personnes ont arrêté de fumer de façon beaucoup plus confortable. Ça, c'est la première méthode, c'est celle à utiliser en première intention, soit tout seul. Les substituts nicotiniques sont en vente libre en pharmacie, hein, le pharmacien pourra vous expliquer et vous conseiller, mais là encore, c'est quand même beaucoup mieux quand vous êtes suivi par un médecin ou par un tabacologue, parce que c'est quand même une démarche qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Et oui, ça ne se fait pas tout seul, c'est ça aussi qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas forcément du jour au lendemain avec un jour ou deux jours de patch, il faut le faire dans la durée.
Absolument. Et un certain nombre de personnes vont vous dire « Ah, ça n'a pas marché », mais si vous les interrogez, vous vous rendez compte qu'ils ont mal utilisé les substituts nicotiniques. Donc, s'ils les ont mal utilisés, c'est qu'ils ont été mal conseillés. Donc là encore, le conseil et l'aide vont énormément influencer le résultat.
Et pour ce qui concerne...
La prise en charge psychocomportementale est importante aussi, mais si vous êtes aidé par un professionnel de santé, cette prise en charge, finalement, elle se fait en même temps. Hein, déjà, expliquer les substituts nicotiniques, c'est une prise en charge psychocomportementale. Hein, donc, et puis après, il y a tout un tas de méthodes, je vais dire, alternatives, qui n'ont pas forcément fait la preuve scientifique de leur efficacité. Mais du moment qu'elles ne sont pas toxiques, eh bien, que ce soit l'hypnose, l'acupuncture, l'homéopathie, du moment qu'elles ne sont pas dangereuses, si la personne veut les utiliser en complément, elle peut le faire. Mais si vous voulez la méthode scientifiquement efficace, qui donne les meilleurs résultats, ce sont les substituts nicotiniques.
Et en ce qui concerne la cigarette électronique, est-ce qu'on a des résultats à plus ou moins long terme sur l'efficacité pour arrêter de fumer et puis peut-être les effets de ce qu'il y a à l'intérieur de ces cigarettes électroniques?
Alors, la cigarette électronique, elle est utilisée à peu près par 3,5% de personnes actuellement. C'est quand même pas non plus tant que ça. Hein. C'est une alternative, bien sûr. Elle n'est pas conseillée, évidemment, par le ministère de la Santé comme façon d'arrêter de fumer ou comme remplacement de la cigarette. Si vous l'utilisez à long terme, il est bien évident que, comme n'importe quel médicament finalement, objet de dépendance, il peut y avoir des effets secondaires. Ça ne résout pas la dépendance. S'il y a toujours de la nicotine dans votre cigarette électronique, vous restez dépendant à la cigarette électronique. Donc, vous ne résolvez pas votre problème de dépendance. En matière de toxicité, il y a beaucoup moins de produits toxiques, évidemment, dans une cigarette électronique. Donc, on estime que le risque est moindre. Si c'est vraiment une phase de transition pour arrêter de fumer, qui va durer 2, 3 ou 4 mois, franchement, il n'y a pas de problème à utiliser une cigarette électronique. Peut-être l'utilisation à très long terme, pendant des années, à la place finalement de la cigarette, peut poser davantage de problèmes.
Et alors, vous le disiez tout à l'heure, le principal problème d'arrêter de fumer, c'est la dépendance à la nicotine. Est-ce que ça existe de fumer un peu, c'est-à-dire occasionnellement, sans en développer une réelle addiction à la nicotine ?
Alors ça existe, mais c'est quand même pas la majorité des fumeurs. Hein. Tout le monde connaît autour de soi des fumeurs occasionnels qui fument en soirée ou à un anniversaire. Des fumeurs effectivement qui ne sont pas dépendants à la nicotine. C'est un plaisir pour eux de fumer, comme ça peut être un plaisir de boire un apéritif ou de manger un carré de chocolat, mais ils n'en sont pas dépendants. Mais c'est vraiment une minorité de fumeurs parce que la nicotine est un des produits addictifs les plus puissants. Donc la majorité des fumeurs sont des fumeurs dépendants et des fumeurs au minimum de 10-15 cigarettes par jour.
Et alors, quel est le public le plus concerné par cette addiction au tabac ?
L'ensemble des publics est concerné. Vous avez actuellement un quart des Français qui sont fumeurs, hein, une petite majorité encore masculine par rapport, mais qui s'est beaucoup rétrécie au fil des ans malheureusement. Hein, c'est-à-dire que les femmes ont rejoint les hommes un petit peu dans leur comportement et malheureusement dans les conséquences néfastes du tabagisme, notamment tabagisme et grossesse. Malheureusement, le tabagisme touche quand même, est en lien avec les inégalités sociales et il y a plus de fumeurs chez les personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité sociale, c'est sûr.
Alors vous l'avez évoqué, le problème de la grossesse et du tabac. On entend souvent qu'une femme, une grosse fumeuse, il est déconseillé d'arrêter de fumer pendant la grossesse, mais plutôt de réduire sa consommation.
Alors, il faut aller contre cette idée reçue. Il faut arrêter de fumer quand on est enceinte. Le tabac, tous les produits du tabac sont toxiques pour le fœtus, entraînent un certain nombre de complications de la grossesse, des fausses couches, des hémorragies, des bébés de plus petit poids, des accouchements prématurés, etc. Enfin, que des choses négatives. Donc, l'objectif, c'est l'arrêt du tabac. Les femmes enceintes ont les mêmes difficultés à arrêter de fumer parce qu'elles sont aussi dépendantes que des femmes ou des hommes, bien sûr, des femmes non enceintes. Mais alors, l'idéal, c'est d'arrêter de fumer dans un projet de grossesse. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, dans 6 mois, j'arrête la pilule et je démarre une grossesse. Donc, je commence à m'occuper de mon problème de tabac. J'essaie d'arrêter de fumer avant d'être enceinte. Ça, c'est l'idéal. Bon, ça n'est pas toujours possible, mais même dès la... Alors, il y a l'effet d'annonce. Bon, un certain nombre de femmes, dès qu'elles vont savoir qu'elles sont enceintes, vont arrêter de fumer du jour au lendemain, parce qu'elles ont bien conscience que c'est toxique pour leur bébé. Et puis, bien les personnes qui n'arrivent pas, enfin les femmes enceintes qui n'y arrivent pas comme ça sur cet effet d'annonce, il faut quand même les motiver un maximum pour qu'elles arrêtent de fumer. Il faut leur dire qu'elles peuvent utiliser des substituts nicotiniques. Il n'y a pas de contre-indication comme le reste de la population. L'objectif, c'est protéger leur bébé et donc arrêter de fumer.
Et donc, encore une fois, se faire aider, c'est la meilleure
solution. En se faisant aider, tout à fait. Alors, vous savez que maintenant, les sages-femmes ont la possibilité de prescrire les substituts nicotiniques, de suivre les femmes enceintes qui souhaitent arrêter de fumer. Donc, il ne faut pas hésiter à leur en parler. Ça fait partie de leurs attributions.
Et alors, en cette période particulière de confinement, de reconfinement, les gens ont peut-être tendance à plus fumer parce qu'on est chez soi, on tourne en rond, on allume plus facilement une cigarette. Comment est-ce qu'on se sort de ce cercle vicieux ?
Alors, j'espère que ce que vous dites n'est pas vrai, mais malheureusement, je le redoute, oui. Un fumeur a tendance à fumer davantage quand il est inactif, qu'il ne sait pas quoi faire. Donc les conseils sont un petit peu les mêmes que qu'un fumeur qui souhaite arrêter de fumer, c'est-à-dire que dès qu'on a envie de fumer, il faut essayer de se changer des idées, de sortir un petit peu, même si on est restreint au niveau des sorties, de trouver une activité plaisante. Bon, il faut vraiment, alors, arrêter de fumer. Alors là, le mois de sans tabac cette année tombe sur le mois de reconfinement. C'est vraiment, c'est pas de chance. Donc il n'y a eu aucune action collective comme il se passait les autres années. Ce sont essentiellement des actions sur les réseaux, la télé, la radio, etc. Mais ça ne fait rien. On peut quand même profiter de ce moment-là. Finalement, peut-être le seul aspect positif, c'est qu'on ne va pas être confronté aux autres fumeurs quand on est confiné chez soi.
On va éviter.
Il y a moins de sorties, il y a moins de fêtes, il y a moins d'apéros, il y a moins de copains à la maison ou on va moins chez les copains. Donc ça peut être peut-être quelque part plus facile pour certains que dans ce contexte-là. On va l'espérer.
Merci beaucoup, docteur Brigitte Cornette. Je le rappelle, vous êtes médecin tabacologue. Donc le mois sans tabac, eh bien c'est tout le mois de novembre. Alors bon, là le mois est un peu entamé, mais c'est pas grave. On peut prendre même en cours de route.
Absolument, c'est pas grave. On peut toujours s'inscrire sur Tabac Info Service. On peut toujours recevoir son kit. Et puis, on peut arrêter de fumer toute l'année.
Le message est passé. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.